Les cloches de Reims.
Quelques heures plus tard, allongé sur un lit de parade décoré des armes de France, Philippe, dans une longue robe de velours vermeil et les mains jointes à hauteur de la poitrine, attendait les évêques qui devaient le conduire à la cathédrale. Le premier chambellan, Adam Héron, lui aussi somptueusement habillé, se tenait debout auprès du lit. Le pâle matin de janvier répandait dans la chambre une lueur laiteuse. On frappa à la porte. « Qui demandez-vous ? » dit le chambellan. « Je demande le roi. Qui le veut ? Son frère. » Philippe et Adam Héron se regardèrent, surpris et mécontents. « Bon, qu'il entre, » dit Philippe en se redressant légèrement. « Vous disposez de bien peu de temps, sire, » fit remarquer le chambellan. Le roi l'assura que l'entretien ne durerait guère. Le beau Charles de la Marche portait une tenue de voyage. Il venait d'arriver à Reims et ne s'était arrêté qu'un instant au logis du comte de Valois. Il y avait du courroux sur son visage et dans son pas. Tout irrité qu'il fût, la vision de son frère, revêtu de pourpre et ainsi étendu dans une pose hiératique, lui en imposa. Il marqua un temps d'arrêt, les yeux arrondis. « Comme il voudrait être à ma place, » pensa Philippe. Puis, à haute voix, « Vous voici donc, mon bon frère. Je vous sais gré d'avoir accompli votre devoir et de faire mentir les méchantes langues qui prétendaient que vous ne seriez pas à mon sacre. Je vous sais gré. Maintenant, courez à vous vêtir, car vous ne pouvez paraître ainsi. Vous allez être en retard. »« Mon frère, » répondit la marche, « il me faut d'abord vous entretenir de choses importantes. » De choses importantes ou de choses qui vous importent. L'important pour l'heure est de ne point faire attendre le clergé. Dans un instant, les évêques vont venir me prendre. « Eh bien, ils patienteront !» s'écria Charles. « Chacun à tour de rôle trouve votre oreille pour l'écouter et en tirer profit. Il n'est que moi dont vous semblez ne point vouloir tenir compte. Cette fois, vous m'entendrez !»«
Alors causons, Charles, » dit Philippe en s'asseyant au bord du lit. « Mais je vous avertis que nous aurons à être brefs. » La marche eut un mouvement qui voulait dire « Nous verrons, nous verrons ». Puis il prit un siège, s'efforçant de se gonfler et de tenir le menton haut. « Ce pauvre Charles, » pensa Philippe, « voilà qu'il veut jouer les manières de notre oncle Valois, il n'en a pas l'épaisseur. »«
Philippe, » reprit la marche, « je vous ai, à maintes reprises, demandé de me conférer la pairie et d'accroître mon apanage ainsi que mon revenu. Vous l'ai-je demandé, oui ou non ?»
« Avide famille, » murmura Philippe.
« Et vous m'avez toujours opposé tête sourde. À présent, je vous le dis pour l'ultime fois, je suis venu à Reims, mais je n'assisterai tout à l'heure à votre sacre que si j'y ai siège de père, sinon je m'en repars. »
Philippe le regarda un moment sans rien dire, et sous ce regard, Charles se sentit diminué, fondre, perdre toute sûreté de soi et toute importance. En face de leur père, Philippe le Bel, le jeune prince naguère éprouvait la même sensation de sa propre insignifiance.
« Un instant, mon frère, » dit Philippe,
qui se leva et alla parler à Adam Héron, retiré dans un angle de la pièce. « Adam, » demanda-t-il à voix basse, « les barons qui ont été quérir la Sainte Ampoule à l'abbaye de Saint-Rémy sont-ils de retour ?»«
Oui, sire, ils sont déjà à la cathédrale avec le clergé de l'abbaye. »
« Bien. » Alors, les portes de la ville, comme à Lyon. Et de la main, il fit trois gestes à peine perceptibles qui signifiaient les herses, les barres, les clés.
« Le jour du sacre, sire ?» murmura Héron stupéfait.
« Justement, le jour du sacre, et faites diligence. »
Le chambellan sortit, Philippe revint vers le lit.